des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invité dans cette nouvelle émission Parcours est cardiologue. Il travaille depuis le début de sa carrière sur la fibrillation auriculaire et la fibrillation ventriculaire, des troubles du rythme cardiaque qui entraînent dans certains cas la mort subite chez le nourrisson comme chez l'adulte. Michel Aissaguer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur de cardiologie et vous exercez à l'hôpital cardiologique du Haut-Lévêque de Bordeaux-Pessec. Vous avez déjà reçu plusieurs prix récompensant l'ensemble de vos travaux et des espoirs qu'ils suscitent. Et vous venez de recevoir le 9 juin 2010 le Grand Prix scientifique de la Fondation Le Foulon de la Lande, prix remis sous la coupole de l'Institut de France. Michel Aissaguer, comment vous êtes-vous spécialisé dans les troubles du rythme cardiaque? Je vous pose la question parce qu'on retrouve un portrait de vous sur le site The Earth qui vous qualifie de fée électricité. Il paraît que vous êtes fasciné par l'activité électrique du cœur.
Alors, quand j'étais gamin, je souhaitais être archéologue et j'avais même acheté avec mes premiers deniers un détecteur de métaux et j'allais dans les différentes montagnes et châteaux du Pays Basque pour aller explorer le sous-sol. À la recherche de trésors, bien entendu. Et quelques années plus tard, quand j'étais adolescent, j'étais très intéressé plutôt par la psychologie. Et j'ai débuté des études de médecine avec l'idée d'être psychiatre. Et finalement, au cours de mon cursus d'interne, j'ai été donc en stage de cardiologie et rythmologie. Et là, j'ai été littéralement fasciné. J'ai découvert, comme vous dites, la fée électricité. Dans le service du professeur Varin, maintenant disparu, au centre hospitalier de Bordeaux, dans l'hôpital Saint-André.
Alors, rapidement, vous travaillez à partir de l'électrophysiologie cardiovasculaire, une technologie qui, entre les années 60 et 80, permet la compréhension des différentes tachycardies et fibrillations. Là aussi, peut-être pourrions-nous nous arrêter quelques instants. Qu'est-ce que l'électrophysiologie cardiovasculaire? En quoi ça consiste?
Dans l'esprit de tous, la fonction cardiaque est associée à la contraction mécanique. Et on oublie qu'avant de se contracter, le cœur doit être parcouru par un flux électrique qui est comme une lumière qui va en quelques instants activer toutes les cellules pour chaque battement cardiaque. Et cette fonction électrique, ce flux électrique, est indispensable à la contraction et toute dysfonction de cette partie électrique aura un impact sur la fonction mécanique. Et nous sommes convaincus que beaucoup de pathologies cardiaques sont au départ une dysfonction électrique et c'est depuis donc une vingtaine d'années notre activité principale.
Je parlais de tachycardie et de fibrillation. Pourquoi est-ce plus difficile de faire une électrophysiologie sur un sujet qui fait des fibrillations plutôt qu'un sujet qui fait de la tachycardie?
Alors, l'exemple que l'on donne le plus communément est les tachycardies correspondent à un foyer ou un circuit et c'est comme s'il y avait un musicien jouant sa partition. La fibrillation est littéralement de multiples foyers et circuits et on a visuellement l'impression d'un orchestre disharmonique qui joue des partitions disharmoniques. Donc dans la fibrillation, il y a de multiples éléments simultanément en jeu et il est donc extrêmement complexe de pouvoir en faire la cartographie parce qu'ils ne jouent tous pas en même temps. Certains musiciens vont s'arrêter, d'autres vont reprendre et les signaux générés par la fibrillation à l'intérieur des cavités cardiaques est extrêmement complexe à interpréter. Y compris quand on utilise les méthodes récentes de traitement du signaux, des algorithmes très complexes, on n'arrive pas encore à bien détecter les sources ou les foyers impliqués au cours des différents instants de la fibrillation.
La fibrillation, je le disais au début de cette émission, vous vous intéressez particulièrement à la fibrillation auriculaire et la fibrillation ventriculaire. Alors, quelle est la différence entre ces deux fibrillations?
La fibrillation auriculaire, elle va affecter la partie haute du cœur. Et elle affecte 6 millions de personnes en Europe. Et quand l'oreillette fibrille, il y a un risque de formation de caillots dans les auricules. Et ce caillot va migrer vers le cerveau. Et on a là la première cause d'accident vasculaire embolique. Et la fibrillation de l'oreillette est responsable de 20% de tous les accidents vasculaires cérébraux. Quand la personne est en fibrillation de l'oreillette, elle ne perçoit pas toujours que la partie supérieure du cœur est irrégulière. Elle peut donc continuer une activité, on va dire, quotidienne. Elle peut être gênée parfois par des palpitations, mais sa vie n'est pas affectée, en tout cas immédiatement. Elle peut l'être indirectement par le biais de la formation de caillots et d'accidents emboliques. La fibrillation ventriculaire donc va affecter seulement la partie ventriculaire, la partie noble du muscle cardiaque, et elle va instantanément provoquer la mort subite du patient. Dans l'esprit de beaucoup, la mort subite est un arrêt cardiaque, c'est-à-dire une pause, comme si, on va dire, la bougie s'éteignait. On sait que dans 80%, ce n'est pas une pause ou un arrêt cardiaque, mais c'est un hyperemballement, une véritable tornade électrique à 400 par minute qui va en quelques secondes tuer le patient. Et il est commun de dire une fibrillation ventriculaire, c'est comme un coup de revolver, ça vous tue instantanément le patient. Une fois que le processus fibrillatoire a été généré dans le ventricule, il va entraîner le décès du patient, sauf si une défibrillation électrique peut lui être proposée.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces fibrillations auriculaires d'une part et ventriculaires d'autre part?
Alors, il s'agit donc bien de deux sujets différents. Donc, dans la fibrillation de l'oreillette, il y a deux axes de recherche. Le premier sur lequel nous avons contribué, c'est que nous pensions que la fibrillation était un chaos de toutes les oreillettes. Et nous avons, en 1994, pendant 4 années successives, cartographié les toutes premières millisecondes. On a travaillé sur un champ d'action de 100 millisecondes qui précédait l'initiation de la fibrillation de l'oreillette. Et on a eu une merveilleuse surprise. Nous avons pu constater que l'arythmie n'était pas générée dans l'oreillette elle-même comme on le pensait, mais était générée à distance, en dehors du cœur, par des cellules situées dans une paroi vasculaire. C'était une deuxième surprise.
Dans une veine pulmonaire ?
Dans les veines pulmonaires. Et donc, la paroi de ces veines contient des cellules très excitables et leur exclusion par un agent thermique a apporté la preuve du concept. Nous avons mis en évidence des cellules qui paraissaient bien responsables de la fibrillation. Nous les avons cautérisées par un agent thermique et, tel Claude Bernard, on pouvait ainsi en conclure que c'était bien ces cellules responsables. Et ça a permis de générer une thérapie qui est actuellement la seule thérapie curative validée par les sociétés scientifiques depuis 2007. Si une fibrillation auriculaire est résistante aux médicaments, elle peut faire l'objet d'un traitement curatif par exclusion de ses foyers. Et cette année, il est attendu que 200 000 patients seront traités dans le monde et ce chiffre augmente de 20% chaque année.
Donc c'est une manière de traiter les accidents cardiovasculaires?
C'est un moyen donc de traiter la fibrillation auriculaire et donc on peut espérer, et ça sera certainement montré assez rapidement, une réduction du nombre d'accidents vasculaires cérébraux et de la mortalité-morbidité liée à cette pathologie.
Mais j'imagine que pour faire ce traitement curatif, il faut vraiment être à un niveau très élevé de risque pour le patient. J'imagine que ce n'est pas une opération anodine.
Les critères scientifiques pour appliquer le traitement d'exclusion des veines pulmonaires par un agent thermique chaud ou froid, c'est uniquement la résistance au traitement médical. Dès le moment où les médicaments classiques sont inopérants, on peut proposer la méthode et les placer en deuxième intention, on va dire dans l'algorithme de décision.
Ça, c'est pour la fibrillation de l'oreillette, fibrillation auriculaire. Pour la fibrillation ventriculaire, là, c'est un peu différent, ne serait-ce que pour faire des études. Car pour faire des études, pour travailler sur des patients qui peuvent faire des fibrillations ventriculaires, comme vous le disiez, il y a une mortalité, 98% je crois, décède suite à une fibrillation ventriculaire. Alors, comment travaillez-vous actuellement sur la fibrillation ventriculaire?
Alors, vous avez tout à fait raison. La fibrillation de l'oreillette, on peut considérer que nous gravissons le Mont Blanc. La fibrillation ventriculaire, c'est évidemment l'Everest. Et c'est le rêve de toutes les équipes de pouvoir trouver une solution pour réduire ce nombre consternant de 300 000 victimes de mort subite chaque année en Europe. Alors, nous avons appliqué le même concept de recherche d'une source dans la fibrillation du ventricule. Et nous avons eu l'occasion de faire des cartographies chez des patients victimes d'un état de mal, ce qu'on appelle d'orage rythmique. Ils avaient tous les jours plusieurs épisodes de fibrillation nécessitant de multiples défibrillations. Certains en état mouraient de cette arythmie. Et donc dans ce contexte extrêmement urgent, nous avons essayé de cartographier et nous avons pu parvenir à identifier un groupe de cellules responsables de l'initiation des fibrillations du ventricule. Et la surprise, c'est que ce sont des cellules qui sont théoriquement normales, ce sont les cellules dites de Purkinje, et elles ne représentent que 2% de la masse cardiaque. Donc, une partie infime de la masse ventriculaire est capable de mettre le feu et d'entraîner le décès du patient. On a donc là, pour nous, une piste extrêmement précieuse, qui n'a pas été encore suffisamment exploité. Les veines pulmonaires, on va dire, le traitement va devenir standard et déjà appliqué dans le monde entier. Là, nous avons une soixantaine de patients pour lesquels nous sommes certains que les sources, si je puis dire, les cellules sources de ces fibrillations sont bien localisées. Donc, on ne peut pas envisager l'ablation thermique de tous ces patients.
De la même manière que pour la fibrillation auriculaire.
La fibrillation de l'oreillette. Par contre, on peut imaginer de bien spécifier le mécanisme intime moléculaire du dysfonctionnement de ces cellules de Purkinje pour une pharmacothérapie. Une pharmacothérapie préventive, on va dire, de l'étincelle déclenchant les fibrillations ventriculaires. Alors ça, c'est déjà le premier point, espoir thérapeutique. La deuxième question, je pense que je vais anticiper ce que vous allez me dire, c'est peut-on maintenant repérer les sujets qui pourraient en bénéficier ? Peut-on repérer les sujets à risque ?
Est-ce qu'on est prédisposé à ces maladies ? Voilà.
Prédisposé à ces maladies. Alors, nous avons déjà quelques critères. C'est évident que quand on a une cardiopathie, le risque de mort subite est, on va dire, majeur dans ce groupe. Alors, il y a des millions de sujets qui ont une cardiopathie, dont une prévention que ceux qui ont les cardiopathies les plus sévères. Plus le cœur est très altéré, plus il y a un risque de mort subite. Mais ce groupe à très haut risque ne constitue numériquement qu'une faible partie des patients cardiaques. Le but, c'est de savoir dans la plus grosse majorité des patients cardiaques quel est celui qui va décéder d'une mort subite par fibrillation ventriculaire. Et l'hypothèse que l'on fait, on prendra l'exemple de la tectonique des plaques, il y a au niveau du ventricule des différences, on va dire, d'électricité, de propriété électrique, capables de générer des courts-circuits. Et cette hypothèse, on va dire, d'une disharmonie dans les propriétés ventriculaires, on peut tenter de la mettre en évidence par une cartographie sur laquelle on peut revenir, qui va permettre d'avoir en trois dimensions une image du champ électrique généré pour un patient donné. L'idée, c'est qu'on va trouver peut-être un seuil de disparité, de disharmonie, qui va conférer à ce sujet un risque, et on pourra à ce moment-là lui proposer un traitement.
J'imagine qu'une des étapes pour pouvoir corroborer ce que vous venez de dire, c'est la création de l'Institut de rythmologie et modélisation cardiaque, le LIRIC.
Voilà. Alors, donc nous avons basé sur plusieurs de ces hypothèses. Nous souhaitons créer effectivement un institut, peut-être dans le cadre donc du Grand Emprunt, dans lequel des équipes spécialisées, notamment celles qui sont absentes de notre pays, comme l'optical mapping, certaines méthodes de processing du signal, etc., pourraient être incluses. Et nous pourrions donc tous travailler, on va dire, avec cet objectif du dépistage des sujets à risque. L'une des applications, par exemple, est de développer le signal sur le thorax du patient, le fameux électrocardiogramme. Si on arrive à amplifier ce signal et à lui donner toute la résolution telle qu'elle est, on va dire, générée sur la partie cardiaque, nous avons de bonnes chances de pouvoir, à ce moment-là, arriver à un dépistage très efficace de ces individus. Et le projet LIRIC, donc, qui est soutenu par l'Université de Bordeaux, associerait donc la partie électrophysiologie, associerait l'imagerie. Nous avons d'excellents, on va dire, spécialistes en imagerie RMN, capables de distinguer des structures de 0,2 mm. On peut donc imaginer qu'on pourrait imager, visualiser le tissu de Purkinje et voir s'il n'y a pas des disparités d'un individu à l'autre. Et la troisième composante avec l'électrophysiologie et l'imagerie serait les sciences numériques. Et nous avons la chance à Bordeaux d'avoir près de 500 chercheurs en numérique, et c'est la première université de France en Computer Science and Engineering dans le top 100 de Shanghai.
Est-ce qu'il vous serait donc intéressant pour la création de cet institut ? Le prix, le foulon de la Lande, va-t-il vous permettre de développer cet institut ? Est-ce que vous comptez dessus pour pouvoir développer cet institut ?
Alors, bien entendu, nous sommes très honorés de recevoir le prix, le foulon de la Lande. Et on va dire la somme allouée permettra de pouvoir acheter du matériel et on va dire, bien entendu, sera totalement impliqué dans le projet LIRIC.
Alors pour terminer cette émission, professeur Michel Heissager, terminons sur ces images parfois impressionnantes de ces morts subites, et notamment chez les sportifs. On a souvent en tête, quand on parle de morts subites, ces joueurs de football ou même les cyclistes qui d'un seul coup s'effondrent. Est-ce que la mort subite est plus importante chez les sportifs de haut niveau ?
Alors, il est bien entendu que dans l'esprit, on va dire façonné par les médias, on a l'impression que beaucoup de sportifs meurent. Alors dans la réalité, on va prendre l'exemple français, il y a 50 000 morts subites chaque année, il y a à peu près 400 sportifs, et il faut préciser aussi qu'il y a 400 nourrissons. Et le nourrisson qui est, on va dire, largement détaillé au point que quand on parle de mort subite, on entend parfois la réponse du nourrisson, bien entendu. Il y a donc 400 nourrissons, 400 sportifs, mais il y a 50 000 adultes qui décèdent donc chaque année. Donc, il y a une large sous-estimation de ce nombre de patients, et c'est peut-être aussi pour ça que la recherche est un petit peu insuffisante dans ce domaine sur lequel nous avons des hypothèses, on va dire, qui sont intéressantes, nous et d'autres. C'est évident que les services de génétique travaillant à Paris ou à Nantes sur le domaine de la mort subite vont aussi donner des facteurs de risque. Alors, les sportifs, ils sont exposés sous le feu des caméras, et on a donc l'impression, parce qu'on a davantage d'opportunités de voir des morts subites, en raison des caméras dans les stades, on a l'impression qu'ils sont en nombre plus grand, ce qui est inexact.
Eh bien, je vous remercie, professeur Michel Aissaguer, de nous avoir donné tous ces éléments d'explication. On vous souhaite une bonne continuation dans l'élaboration de ces projets et bien sûr de pouvoir traiter tous ces patients. 50 000 personnes, vous parliez pour la mort subite, mais également tous ces patients concernés par la fibrillation de l'oreillette également. Merci, professeur. Et puis, je l'espère à bientôt, à ce moment-là, pour faire un point sur l'avancée de vos recherches.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.